4. Les êtres innommables, m'informait Atlet, dans une écriture tremblante, pitoyable, avaient entrepris de le cerner avec une détermination entièrement inédite. Les aboiements nocturnes de ses chiens, chaque fois que la lune était voilée ou absente, se faisaient insupportables, et il avait subi des tentatives d'agression sur les voies désertes qu'il devait parcourir dans la journée. Le 2 août, alors qu'il se rendait au village en voiture, il avait découvert un tronc d'arbre couché en travers de la route, à un endroit où elle s'enfonçait dans une portion de forêt profonde. Les cris furieux des deux gros chiens qu'il avait emmenés lui avaient trop bien fait comprendre que des créatures devaient se tapir à proximité. Il n'osait imaginer ce qui lui serait arrivé si ses fidèles compagnons n'avaient pas été là. Désormais, il ne sortait jamais sans être accompagné d'au moins deux membres de sa fidèle et solide troupe animale. D'autres incidents s'étaient produits pendant ces trajets des 5 et 6 août. Une fois, un tir avait frôlé sa voiture, un autre, l'aboiement de ses matins, lui avait révélé la présence dans les bois de ces êtres maudits. Le 15 août, je reçus une lettre paniquée qui me plongea dans une extrême inquiétude et me fit souhaiter avec ferveur qu'Aclay renonce à sa solitude et alerte les autorités. L'agitation avait été à son comble dans la nuit du 12 au 13. Des balles avaient sifflé autour de sa ferme, et il avait retrouvé le matin 3 de ses 12 gros chiens morts. Il avait relevé une multitude d'empreintes de griffes sur la route, avec au milieu d'elles les traces de pas de Walter Brown. Aclay avait voulu téléphoner à Brattleboro pour commander d'autres chiens, mais la ligne avait tout de suite été coupée. Plus tard, il s'y était rendu en voiture et avait appris que les réparateurs du téléphone avaient trouvé le câble principal tranché net à un endroit où il traversait les collines désertes au nord de Newfoundland. Juste avant de retourner chez lui avec 4 excellents matins qu'il venait de se procurer et plusieurs boîtes de munitions pour son gros fusil de chasse à répétition, il m'avait écrit du bureau de poste de Brattleboro. La lettre me parvint sans délai. Dès lors, toute cette histoire, malgré son intérêt scientifique, devint très vite à mes yeux un inquiétant problème personnel. J'avais peur pour Atlet dans sa ferme lointaine et isolée, mais je craignais également pour moi-même, à cause de mon implication désormais sans équivoque dans l'énigme des collines. Ces êtres prenaient une telle influence. Allaient-ils m'entraîner et m'engloutir? En réponse à la lettre d'Atlet, je l'exhortais à demander de l'aide et laissais entendre que je m'en chargerais moi-même s'il ne s'y résolvait pas. Je parlais de me rendre dans le Vermont en personne en dépit des réticences qu'il avait exprimées, afin de l'appuyer pour expliquer la situation aux autorités compétentes. Je ne reçus en retour qu'un télégramme venu de Bellows Falls. Apprécie votre position, mais ne peut rien faire. Ne prenez aucune initiative, aggraverait les choses pour nous deux. Explication suit. Henry Atlet. Mais la situation ne cessa d'empirer. Après avoir répondu à ce message, j'eus la surprise d'apprendre, par un mot d'Aclay à l'écriture fébrile, que non seulement il ne m'avait jamais envoyé le télégramme, mais qu'il n'avait pas reçu la lettre à laquelle ce dernier, de toute évidence, faisait allusion. Une enquête rapide à Bellows Falls lui avait révélé qu'un étrange personnage blond clair, à la voix profonde et bourdonnante, l'avait déposé. Il n'avait pu en apprendre davantage. L'employé lui avait montré le texte d'origine, griffonné au crayon, et Aclay avait constaté que cette écriture lui était totalement inconnue. Il avait remarqué l'erreur sur son nom. Il manquait le « i » à Aclay. Certaines déductions s'imposaient, mais au milieu de cette crise en développement, il ne s'attardait pas à les expliciter. Il me parlait également de la mort d'autres de ses chiens, remplacé une fois de plus, et de l'échange de coups de feu devenu coutumier chaque nuit sans lune. Il découvrait désormais régulièrement au milieu des traces de griffes sur la route ou à l'arrière de sa maison les empreintes de Brown, et celles d'au moins un ou deux humains supplémentaires. Avant peu, il serait sans doute obligé d'aller vivre chez son fils en Californie, même s'il ne parvenait pas à vendre sa propriété. Mais il ne lui était pas facile de quitter l'unique endroit qu'il pouvait vraiment appeler son chez-lui. Il voulait s'efforcer de tenir encore un peu. Peut-être pourrait-il suffisamment effrayer les intrus pour qu'ils s'en aillent, surtout s'ils abandonnaient de manière ostentatoire toute tentative de percer à jour leurs secrets. Je répondis à Aclay sur le champ et renouvelai mon offre de l'aider. Je lui proposai une fois de plus de lui rendre visite et de l'appuyer pour convaincre les autorités qu'il se trouvait en grand danger. Dans sa lettre suivante, il me parut moins opposé à cette idée que son attitude passée m'avait laissé prévoir. Mais il me dit tout de même qu'il aimerait rester encore un peu, le temps de mettre ses affaires en ordre et de s'habituer à l'idée de quitter sa contrée natale qu'il aimait presque jusqu'à l'obsession. Les gens de la région considéraient déjà avec méfiance ses recherches et ses théories. Il était préférable qu'il s'en aille sans mettre la campagne en émoi, ce qui aurait risqué de jeter de graves doutes sur sa santé mentale. Il s'avouait prêt à jeter l'éponge, mais tenait, si possible, à abandonner les lieux avec un minimum de dignité. Cette lettre-ci me parvint le 28 août, et je rédigeai une réponse aussi encourageante que je pus. Je dus réussir à remonter le moral de mon correspondant, car son message suivant rapportait moins d'atrocités. Cependant, il n'était pas vraiment optimiste. Il supposait que les créatures restaient à distance uniquement à cause de la période de la pleine lune. Il espérait ne pas avoir à souffrir de nuits trop couvertes dans les jours à venir et envisageait de se rendre à Brattleboro quand la lune décroîtrait. Je lui répondis de nouveau de manière encourageante, mais reçus le 5 septembre un mot qui, de toute évidence, s'était croisé avec ma lettre et auquel il m'était impossible de réagir de manière positive. Il marque une étape importante. Aussi estimais-je préférable d'en donner la teneur complète, pour autant que je me souvienne de ces pages couvertes d'une écriture tremblante. Dans l'ensemble, voici ce qu'elle disait. Lundi. Cher Wilmart, voici un post-scriptum plutôt décourageant à ma lettre précédente. La nuit dernière, le ciel était couvert d'épais nuages, même s'il n'a pas plu, et pas le moindre rayon de lune ne pouvait les traverser. Tout est allé très mal. Je crois la fin proche en dépit de tous nos espoirs. Passé minuit, quelque chose a atterri sur le toit de la maison et les chiens se sont précipités pour voir ce que c'était. Je les ai entendus claquer des mâchoires dehors, puis l'un d'eux a réussi à atteindre le toit en sautant depuis l'aile en contrebas. Alors un terrible combat s'est engagé au-dessus de ma tête. J'ai entendu un épouvantable bourdonnement que je n'oublierai jamais. Puis j'ai senti une odeur affreuse. C'est à peu près à ce moment que des balles ont traversé la fenêtre et sifflé non loin de moi. Je crois que le gros des troupes des créatures des collines a réussi à s'approcher de la maison parce qu'une partie des chiens s'intéressait au toit. Qui avait-il là-haut? Je n'en sais rien encore. Mais je crains que ces êtres aient amélioré leur technique de vol avec leurs ailes spatiales. J'ai éteint la lumière et tiré avec mon fusil depuis les fenêtres. J'ai fait le tour de la maison en visant juste assez haut pour ne pas atteindre mes bêtes. Cela parut mettre fin au fracas, mais ce matin j'ai trouvé beaucoup de sang dans ma cour, à côté de mares d'une substance poisseuse et verdâtre, répandant la pire puanteur qui m'ait jamais frappé. Je suis monté sur le toit et y ai trouvé encore de cette matière collante. 5 de mes chiens sont morts, et je crains bien d'en avoir abattu un moi-même en visant trop bas. Il a reçu le coup dans le dos. À présent, je m'emploie à remplacer les carreaux brisés par des balles avant de me rendre à Brattleboro pour acheter d'autres chiens de garde. Les employés du chenil doivent me prendre pour un fou. Je vous écrirai plus longtemps. Je pense que je serai prêt à partir dans une semaine ou deux, mais cette perspective n'est pas loin de me tuer. En hâte, Aclay. Mais cette lettre d'Aclay ne fut pas la seule à croiser mon dernier message. Le matin suivant, le 6 septembre, une autre me parvint, des pages couvertes d'une écriture frénétique qui me jetèrent dans les affres. Je ne savais plus que répondre ou que faire. Une fois de plus, je ne peux qu'en donner le texte aussi exactement que me le permet ma mémoire. Mardi. Le ciel reste couvert, toujours pas de lune, et de toute manière elle est décroissante. J'aurais bien fait installer l'électricité dans la maison ainsi qu'un projecteur, si je n'étais sûr qu'il couperait les câbles aussi vite qu'on pourrait les réparer. Je crois que je deviens fou. Il se peut que tout ce que je vous ai écrit l'ait été en rêve ou pendant une crise de démence. C'était déjà très pénible, mais là je n'en peux plus. Ils m'ont parlé la nuit dernière, parlé de cette maudite voix bourdonnante, et dit des choses que je n'ose vous répéter. Je les ai bien entendues malgré le vacarme des chiens, et à un moment, quand cette voix a été couverte par les aboiements, celle d'un humain a pris le relais. Restez à l'écart, Wilmart. C'est pire que tout ce que vous ou moi avons jamais supposé. Ils ne comptent plus me laisser partir en Californie maintenant. Ils veulent m'entraîner vivant, ou dans une condition qui, théoriquement et mentalement, revient à la vie, non seulement jusqu'à Yugot, mais au-delà, en dehors de la galaxie et peut-être même au-delà des extrémités courbes de l'espace. Je leur ai répondu que je refusais d'aller où ils voulaient, et de me retrouver réduit au triste état dans lequel ils ont l'intention de me faire voyager. Mais je crains que cela ne serve à rien. Ma demeure est si isolée que bientôt ils oseront y venir de jour comme de nuit. Encore six chiens de tués, et aujourd'hui j'ai senti la présence de ces créatures tout le long des parties boisées de la route que j'ai suivie jusqu'à Brattleboro. J'ai eu tort de vous envoyer l'enregistrement pour phonographe et la pierre noire. Mieux vaut détruire ce document sonore avant qu'il soit trop tard. Je vous enverrai un mot demain si je suis toujours là. J'aimerais prendre mes livres et mes documents et m'installer en pension à Brattleboro. Je m'enfuirais bien sans mes affaires si je le pouvais, mais quelque chose dans mon esprit me retient. J'arrive à sortir et à me rendre à Brattleboro où je devrais être en sécurité, mais là-bas, je me sens plus prisonnier que chez moi, et j'ai le sentiment irrépressible que je ne pourrais guère aller plus loin même si je laissais tout tomber et tentais de filer. C'est affreux. Tenez-vous à l'écart. Bien à vous, à Clay. Je ne fermais pas l'œil de la nuit qui suivit ce terrible message, et je me posais les plus graves questions sur l'état mental d'Aclay. La teneur de la lettre était proprement démente, mais, considérant tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, elle possédait une sinistre et puissante force de conviction. Je n'essayais pas d'y répondre aussitôt, estimant préférable d'attendre que mon correspondant ait reçu mon dernier mot. De fait, j'en obtins la réponse le jour suivant. Les événements qu'elle mentionnait rendaient caduques les points que j'avais soulevés en m'adressant à lui. Voici ce que j'ai retenu du texte griffonné, taché, couché sur le papier dans une hâte frénétique manifeste. Mercredi, W. Votre lettre est bien arrivée, mais il ne reste plus rien de discuter de quoi que ce soit. Je suis complètement résigné. Étonnant même ce qu'il me reste assez de volonté pour les combattre. Je ne pourrais pas m'échapper. À supposer que je veuille tout abandonner pour m'enfuir, ils vont m'avoir. J'ai reçu du courrier d'eux hier. Le service postal rural me l'a déposé, avec le cachet de Bellows Falls, pendant que j'étais à Brattleboro. Le message m'annonce ce qu'ils vont faire de moi. Je ne peux vous le répéter. Prenez garde à vous. Détruisez l'enregistrement. Les nuits restent couvertes et la lune décroît toujours. J'aimerais bien oser chercher de l'aide. Cela pourrait soutenir ma force de volonté. Mais quiconque se résoudrait à venir ici me traiterait de fou, faute de preuves. Et je ne peux demander à personne de passer me voir sans raison précise, car cela fait des années que j'ai cessé de fréquenter du monde. Mais je ne vous ai pas dit pire, Wilmart. Préparez-vous, vous allez recevoir un choc. Pourtant, c'est la vérité. Voilà. J'ai vu, j'ai touché un de ces êtres, ou du moins, une partie. Oh mon Dieu, quelle abomination! La créature était morte, évidemment. L'un des chiens l'avait tué et je l'ai trouvé près du chenil ce matin. J'ai tenté de conserver le corps dans la grange à bois pour convaincre enfin quelqu'un de l'existence de ces êtres, mais il s'est volatilisé en quelques heures. Il n'en restait rien. Vous vous rappelez, les choses aperçues dans les rivières ne l'ont été que la matinée suivant la crue. Et voilà le pire. J'ai essayé de photographier la dépouille pour vous envoyer son image, mais quand j'ai développé la pellicule, on ne voyait rien que l'intérieur de la grange. De quoi ce monstre était-il fait? Je l'ai vu, je l'ai touché, et tous ceux de son espèce laissent des empreintes. Il était sûrement constitué de matière, mais de quelle sorte? Sa forme défiait toute description. On aurait dit un crabe géant avec, à l'emplacement de la tête, un amas de chair épaisse et visqueuse empilée en une pyramide d'anneaux noueux recouverts d'antennes. La poix verte correspondait à son sang, ou à un fluide corporel quelconque. Et d'autres vont arriver sur Terre d'un moment à l'autre. Walter Brown a disparu. Plus personne ne l'a plus vu traîner dans les villages des environs. L'un de mes coups de feu a dû l'atteindre. Les créatures en général s'efforcent d'emmener avec elles les morts et les blessés. Cet après-midi, je suis arrivé en ville sans encombre, mais je crains fort que les monstres ne restent à distance, parce qu'ils sont sûrs de me tenir. Je vous écris du bureau de poste de Brattleboro, et ceci pourrait bien constituer mes adieux. Si tel était le cas, prévenez mon fils George Goodenough à Clay, 176 Pleasant Street, San Diego, Californie. Mais surtout, ne venez pas ici. Avertissez-le si vous ne recevez plus de mes nouvelles d'ici une semaine. Surveillez ce qu'on raconte dans les journaux. Il me reste deux atouts à jouer, et si j'en ai encore la volonté. D'abord, je vais tenter d'empoisonner ces êtres en les gazant. Je dispose des produits nécessaires et j'ai fabriqué des masques pour les chiens et moi. Puis, si cela échoue, j'irai tout raconter au shérif. Ils peuvent m'enfermer à l'asile s'ils y tiennent. Ce sera toujours mieux que ce que les créatures me réservent. Peut-être pourrais-je attirer l'attention des autorités sur les empreintes qui cernent ma maison. Elles sont peu marquées, mais j'en trouve des fraîches tous les matins. Pourtant, j'imagine, la police croirait que, d'une manière ou d'une autre, je les ai fabriquées. Tout le monde ici me tient pour un excentrique. Je devrais essayer d'obtenir qu'un policier passe une nuit entière chez moi, afin qu'il se rende compte par lui-même. Mais cela ne m'étonnerait pas que ces êtres aient alors vent de sa présence et s'abstiennent de m'assiéger cette nuit-là. Ils coupent les fils de mon téléphone chaque fois que j'essaie de passer un appel la nuit. Les réparateurs trouvent cela très bizarre et pourraient se porter témoin si toutefois ils n'imaginent pas que je commets moi-même ces sabotages. Cela fait une semaine à présent que je n'essaie plus de faire rétablir la liaison. Certains paysans ignorants du voisinage pourraient se porter garant pour moi de la réalité de ces horreurs. Mais ils sont la risée de tous et d'ailleurs, ils évitent depuis si longtemps ma propriété qu'ils ignorent tout des derniers événements. Des fermiers frustes, n'approcherai jamais à moins d'un kilomètre de chez moi, même pour $1 million. Le facteur, quand je le vois, me répète en plaisantant ce qu'il raconte. Seigneur, si seulement j'osais lui dire à quel point tout cela est réel. Compte essayer de lui montrer les empreintes, mais il passe l'après-midi et à cette heure, elles sont en général effacées. Si j'en conserve une ou en la protégeant avec une boîte ou une casserole, il croira certainement à une mauvaise plaisanterie. Je regrette d'être devenu un tel ermite. Les gens ne passent plus ici comme ils le faisaient avant. Je n'ai jamais eu le courage de montrer la pierre noire ou mes prises de vue, ou de faire entendre l'enregistrement à personne excepté aux plus rustres. Les autres prétendraient que j'ai tout inventé et ne feraient qu'en rire. Mais je pourrais toutefois tenter de montrer les photographies. Elles fournissent une vision nette de ces empreintes de griffes, même si les monstres qui les ont laissées n'impressionnent pas la pellicule. Quel dommage que personne d'autre que moi n'ait vu celui de ce matin avant qu'il se dissolve. Mais en fait, je ne sais même plus si cela m'importe. Après ce par quoi je suis passé, l'asile me paraît un refuge acceptable. Les médecins m'aideront à me décider à quitter cette maison, et c'est la seule chose qui puisse me sauver. Écrivez à mon fils George si vous n'avez pas bientôt d'autres nouvelles. Adieu. Détruisez l'enregistrement. Tenez-vous à l'écart. Bien à vous. À Clay. En toute franchise, cette lettre me plongea dans la plus noire terreur. Je ne savais quoi répondre, pourtant je griffonnais quelques conseils incohérents pour encourager le malheureux et les envoyais en recommandé. Je me rappelle y avoir pressé à Clay de s'installer à Brattleboro et de se placer sous la protection des autorités. J'ajoutais que je me rendrais là-bas avec l'enregistrement et aiderais à convaincre les instances nécessaires de sa santé mentale. Il était temps aussi, poursuivais-je, me semble-t-il, d'alerter les gens sur cette abomination qui vivait juste à côté d'eux. On remarquera que, dans ce moment de grande tension, j'étais presque entièrement convaincu par l'ensemble des allégations d'Aclay, même si je pensais que son échec à photographier le cadavre du monstre était dû non à une anomalie de la nature, mais à une erreur de sa part, consécutive à son état d'agitation.
5. Puis, croisant apparemment mon mot confus, parvint chez moi dans l'après-midi du samedi 8 septembre une lettre rassurante, très différente des précédentes, tapée avec soin sur une machine neuve. Ce curieux message de réconfort et d'invitation a sans conteste marqué une étape notable dans le drame cauchemardesque ayant pour cadre ces collines reculées. Une fois de plus, je vais le citer d'après mes souvenirs en tâchant, pour des raisons bien précises, d'en conserver autant que possible le style particulier. Le cachet de la poste indiquait Bellows Falls, et la signature, comme le corps de la lettre, était dactylographiée. On rencontre souvent cela chez ceux qui s'initient à ce mode d'écriture. L'ensemble, toutefois, se montrait d'une excellente facture pour un dactylographe débutant. Je supposais qu'Aclay, peut-être lors de ses études universitaires, avait dû à l'occasion se familiariser avec ce genre d'appareil. Il ne serait pas inexact de dire que cette lettre apaisa mes inquiétudes. Pourtant, sous le soulagement demeurait un fond de malaise. Si Aclay avait conservé la raison lorsqu'il était en proie à la terreur, était-ce encore le cas à présent qu'il s'en croyait délivré? Et cette espèce de relation normalisée qu'il évoquait, de quoi parlait-il au juste? Tout cela impliquait chez lui une attitude diamétralement opposée à celle que je lui avais connue. Bref, voici l'essentiel de ce texte. Je le transcris avec le plus grand soin d'après une mémoire que j'ai la faiblesse de croire excellente. Townshend, Vermont, jeudi 6 septembre 1928. Mon cher Wilmart, j'éprouve le plus grand plaisir à pouvoir vous tranquilliser concernant les stupidités que j'ai pu vous écrire. Je dis stupidité, mais par ce terme, je fustige mon attitude craintive plutôt que les descriptions que j'ai pu faire de certains phénomènes. Ils sont réels et d'une véritable importance. Mon erreur a été de me comporter de manière anormale en leur présence. Je crois avoir mentionné que mes étranges visiteurs avaient entrepris d'entrer en communication avec moi, qui tentaient la même chose de mon côté. La nuit dernière, cet échange de points de vue a été effectif. En réponse à des signaux particuliers, j'ai accueilli chez moi un messager des êtres venus d'ailleurs. Je m'empresse de préciser qu'il s'agissait de l'un de nos frères humains. Il m'a appris beaucoup de choses que ni vous ni moi avions même commencé à deviner, et m'a ouvert les yeux sur la manière incroyable dont nous nous étions fourvoyés et avions mal interprété les intentions de ceux du dehors, derrière leur obstination à maintenir secrète leur colonie sur notre planète. Il apparaît que les légendes abominables concernant ce qu'ils peuvent apporter à l'homme, ce qu'ils attendent de la Terre, résultent entièrement d'un malentendu. Leur discours est métaphorique, modelé par un contexte culturel et des habitudes de pensée incommensurablement différents de tout ce que nous pouvions même rêver. Je dois reconnaître que mes conjectures étaient tout autant erronées que n'importe quelle supposition émanant de fermiers illettrés et d'indiens sauvages. Ce que j'avais jugé malsain, scandaleux, ignominieux, se révèle empli de grandeur, extraordinaire et même glorieux. Mon évaluation précédente de la situation ne répondait jamais qu'à l'éternelle propension humaine à craindre, haïr et repousser ce qui nous est sans conteste étranger. Maintenant, je regrette les blessures que j'ai infligées à ces prodigieux étrangers au cours de nos échauffourées nocturnes. Si seulement, en être raisonnable, j'avais accepté d'emblée un dialogue pacifique avec eux. Mais ils ne m'en veulent pas. Leur structure émotionnelle n'a rien à voir avec la nôtre. Ils ont eu la malchance de prendre comme agents dans le Vermont de tristes individus, notamment feu Walter Brown, qui a beaucoup renforcé mes préjugés contre eux. En fait, ils n'ont jamais sciemment nui à un être humain, alors que notre espèce les a souvent espionnés et leur a causé beaucoup de tort. Il existe tout un culte secret auquel participent des hommes malfaisants. Avec votre érudition concernant le mysticisme, vous me comprendrez si je les associe à Astur et aux signes jaunes, ayant pour premier objectif de débusquer ceux du dehors et de les mutiler pour le compte de puissances monstrueuses venues d'autres dimensions. C'est contre ces agresseurs, et non contre l'humanité dans son ensemble, que les êtres des collines se protègent par de sérieuses mesures de précaution. Soit dit en passant, on m'a informé que c'était bien des agents de ce culte maléfique et non ceux du dehors, et qui avaient volé la plupart de nos lettres disparues. Nos visiteurs ne souhaitent que la paix, la non-violence et une augmentation des échanges intellectuels. Ce dernier point devient indispensable à présent que nos inventions et nos moyens techniques accroissent notre savoir et notre champ d'action, au point de rendre bientôt impossible à ceux du dehors de conserver secrète l'existence sur notre planète des avant-postes dont ils ont besoin.
Ces êtres venus d'ailleurs désirent mieux nous connaître, mais également que certains des humains de premier plan dans les domaines de la pensée et de la science en sachent davantage sur eux. Avec un tel échange d'informations, tout danger disparaîtra. Nous établirons un modus vivendi satisfaisant. La seule pensée qu'ils auraient l'intention d'asservir ou d'avilir l'humanité est ridicule. Afin de partir sur de meilleures bases avec les hommes, ceux du dehors m'ont tout naturellement choisi, moi qui en sais déjà tant sur eux, pour être leur premier interprète sur Terre. On m'en a beaucoup appris la nuit dernière, des faits des plus inimaginables et porteurs de révélations. On m'en dira bien davantage par la suite, oralement et par écrit. Pour l'instant, je ne devrais pas être appelé à effectuer de voyage vers d'autres planètes. Mais tel sera sans doute mon souhait bientôt, grâce à des moyens de transport inouïs, qui transcendent tout ce à quoi l'expérience humaine nous a habitués jusqu'alors. Le siège de ma maison n'a plus lieu d'être. Tout est revenu à la normale et je n'aurai plus l'usage de mes chiens. Au lieu de la terreur qui me possédait, j'ai reçu un immense trésor de savoir et vécu une aventure intellectuelle dont peu d'autres mortels n'ont jamais joui. Ceux du dehors sont peut-être les plus prodigieuses créatures organiques que l'on puisse trouver dans et hors de l'espace. Ils sont les membres immémoriaux d'une espèce répandue dans tout le cosmos, dont les autres formes de vie ne constituent guère que des variantes dégénérées. Ils sont plus proches du règne végétal que du règne animal, si toutefois on peut appliquer ces termes à leur structure organique plus ou moins fongique. Mais la présence en eux d'une substance similaire à la chlorophylle et d'un système nutritif des plus étonnants les rend complètement différents des véritables cormophytes. De fait, une matière tout étrangère à notre portion de l'espace les modèle. Ces électrons vibrent selon une fréquence résolument autre. Voilà pourquoi on ne peut photographier ces êtres sur les pellicules et les plaques habituelles de notre univers connu, même si nos yeux les distinguent. Toutefois, muni des connaissances appropriées, un bon chimiste pourrait créer une émulsion photographique propre à capturer leur image. Cette espèce est la seule dotée d'un corps capable de traverser physiquement le vide interstellaire glacé. Certaines de ces variétés ne le peuvent sans aide mécanique ou intervention chirurgicale étonnante. Seules quelques familles de ces créatures sont pourvues des ailes résistantes à l'éther caractéristique de la variété du Vermont. Pour celles que l'on trouve sur certains monts reculés de l'Ancien Monde, on les y a transportées. Ces êtres, dans leur ensemble, présentent une similarité d'aspect avec la vie animale et le type d'organisation structurelle que nous interprétons comme matériel. Mais c'est le résultat d'une évolution parallèle plutôt que d'une parenté originelle. Leur capacité cérébrale surpasse celle de toutes les autres formes de vie existantes, et les individus ailés de nos collines du Vermont ne sont en aucun cas les plus développés sous ce rapport. Ils communiquent d'ordinaire entre eux par télépathie, en dépit d'organes vocaux rudimentaires qui, après une petite opération bénigne, chez eux la chirurgie a atteint un niveau d'expertise inimaginable et on l'emploie de manière courante, peuvent grossièrement imiter le discours des organismes encore tributaires de ce mode d'expression. Leur monde le plus proche est une planète encore inconnue de nous, presque dénuée de lumière, située au-delà de Neptune, aux extrêmes confins de notre système stellaire, la 9e planète la plus éloignée du Soleil. Il s'agit, ainsi que nous l'avions compris, du corps céleste désigné par les rituels mystiques sous le nom de Yugot, dans certains écrits antiques interdits. À cet endroit va bientôt se dérouler une étrange opération de concentration de pensée dirigée sur notre monde afin de faciliter nos relations mentales interespèces. Je ne serais pas surpris si les astronomes devenaient suffisamment sensibles à ces flux mentaux pour découvrir Yugot, lorsque ceux du dehors désireront qu'il en soit ainsi. Mais Yugot, bien sûr, ne constitue qu'un seuil. Pour l'essentiel, les êtres habitent des abysses à la structure inédite, complètement au-delà du concevable pour une imagination humaine. La portion d'espace-temps que nous considérons comme l'ensemble de notre cosmos ne représente jamais qu'un atome dans l'infini véritable qui est le leur. Et autant de cette immensité qu'un cerveau humain est en mesure d'appréhender s'ouvrira un jour ou l'autre à moi, comme ce fut le cas pour moins de 50 autres hommes depuis les débuts de notre espèce. Sans doute, Wilmart, trouverez-vous d'abord ces propos délirants, mais avec le temps vous vous rendrez compte de la chance formidable qui passe par hasard à ma portée. Je tiens à partager avec vous autant que possible cette incroyable aventure, et pour cela dois vous expliquer des milliers de choses que je ne puis coucher sur le papier. Je vous ai auparavant découragé de me rendre visite. Maintenant qu'il n'y a plus aucun danger, j'ai le grand plaisir de revenir sur mes précédentes mises en garde et de vous inviter. Ne pouvez-vous venir jusqu'ici avant la rentrée universitaire? Ce serait vraiment merveilleux. Apportez avec vous l'enregistrement sonore et toutes les lettres que je vous ai envoyées comme support de travail. Nous en aurons besoin pour reconstituer à nous deux la totalité de cette prodigieuse histoire. Pensez aussi à apporter les photographies, parce que, dans l'excitation de ces derniers temps, je crois bien avoir égaré tous les négatifs et mes propres tirages. En tout cas, j'ai un trésor de données à ajouter à ce matériel préliminaire et incertain, sans compter l'incroyable appareil dont je dispose désormais. N'hésitez pas. On ne m'espionne plus du tout désormais. Vous ne verrez rien d'inhabituel ou d'inquiétant. Venez, ma voiture vous attendra à la gare de Brattleboro. Préparez-vous à rester chez moi pour une durée importante. Et attendez-vous à bien d'éveiller passer à débattre de sujets dépassant toutes les conjectures humaines. N'en parlez à personne, évidemment. De telles révélations ne sauraient s'adresser au public ordinaire. La desserte de Brattleboro par chemin de fer n'est pas mauvaise. Vous trouverez les horaires à Boston. Prenez le Boston and Main jusqu'à Greenfield, où vous aurez un changement pour effectuer le peu de distance restant. Je vous suggère un train pratique à 16h10, temps légal, au départ de Boston. Il arrive à Greenfield à 19h35 et une correspondance part à 21h19 pour arriver à Brattleboro à 22h01. Ce sont les horaires valables la semaine. Indiquez-moi la date, ma voiture vous attendra à la gare. Veuillez excuser le fait que je dactylographie cette lettre, mais dernièrement mon écriture, comme vous l'avez remarqué, est devenue très tremblée et je ne me sentais pas la force de l'employer pour un message un peu long. J'ai acheté hier cette Corona à Brattleboro. Elle me paraît très bien fonctionner. En attendant de vos nouvelles et en espérant vous voir bientôt avec l'enregistrement et toutes mes lettres, sans oublier les photographies. Bien à vous. Henry W. Ackley. À Albert N. Wilmart, Esq., Université Miskatonic, Arkham, Massachusetts. J'aurais bien du mal à décrire avec justesse la complexité des émotions qui me traversèrent quand je lus et relus cette étrange lettre des plus inattendues et y réfléchis longuement. J'ai dit que je me sentais à la fois soulagé et mal à l'aise, mais cela exprime sans aucune finesse les nuances des sentiments divers, pour l'essentiel inconscients, qui englobaient à la fois le soulagement et le malaise. Pour commencer, ce message était tellement aux antipodes de la noria d'événements horrifiques qui l'avaient précédé, et le revirement de mon ami, passé de l'épouvante la plus crue à une acceptation désinvolte, voire à l'exultation, était si inattendu, si subi et si complet. Et j'avais vraiment du mal à imaginer qu'en un laps de temps aussi réduit, le point de vue psychologique de celui qui avait écrit le mot fébrile de mercredi se soit à ce point transformé, même en tenant compte des révélations apaisantes que la journée avait pu lui apporter. À certains moments, l'impression d'invraisemblance conflictuelle dans toute cette affaire me faisait me demander si ce drame, cliniquement exposé, mettant en scène des puissances fantastiques, ne constituait pas une espèce de semi-rêve, créé pour l'essentiel dans mon propre esprit. Mais alors je repensais au document sonore et m'abandonnais à un sentiment accru d'ébahissement. Cette lettre était si différente de ce que j'aurais pu attendre. En analysant l'effet qu'elle avait produit sur moi, je me rendis compte qu'elle soulevait deux problèmes distincts. Tout d'abord, en partant du principe que mon correspondant avait jusqu'alors été sain d'esprit, et qu'il l'était toujours, Ce qu'il disait de l'évolution de la situation paraissait trop rapide et impensable. Ensuite, le changement d'Aclay dans ses manières, son attitude et son expression dépassait toutes les bornes du normal et du prévisible. L'ensemble de sa personnalité semblait avoir subi une mutation insidieuse, si profonde que je trouvais difficile d'admettre que les mentalités ainsi dévoilées puissent correspondre toutes deux à un état acceptable d'équilibre psychologique. Le vocabulaire, la syntaxe, tout se montrait subtilement différent. Grâce à ma sensibilité d'universitaire aux nuances de style, je remarquais de sérieuses divergences dans les idiotismes et la rythmique des phrases. Il est clair que le cataclysme émotionnel, ou la révélation capable de provoquer un tel bouleversement, touchait à l'extrême. Et pourtant, d'une certaine manière, le message semblait typique de l'homme. J'y retrouvais sa vieille passion pour l'infini et sa curiosité scientifique. Je ne pouvais guère plus d'un instant soutenir l'idée d'une contrefaçon ou d'une substitution malveillante. Cette invitation, cette volonté de me voir mettre à l'épreuve en personne le contenu de cette lettre, ne prouvait-elle pas son authenticité? Je n'allais pas me coucher ce samedi-là et restais dans mon bureau à méditer sur les ombres et les prodiges évoqués dans cet étonnant message. Mon esprit, déjà chargé de la rapide succession de notions monstrueuses qu'il avait dû assimiler au cours des 4 derniers mois, travaillait à présent sur cette extraordinaire évolution et traversait alternativement des périodes de doute et d'acceptation, semblables pour l'essentiel à celles déjà rencontrées lors des développements précédents. L'aube était encore loin lorsqu'une curiosité passionnée remplaça la tempête initiale de perplexité et d'inquiétude. Saint d'esprit ou dément, métamorphosé ou simplement soulagé, tout indiquait qu'Aclay, au cours de ses recherches audacieuses, avait été amené à effectuer un incroyable changement de point de vue, qui à la fois diminuait le danger, réel ou imaginaire, qu'il avait auparavant encouru, et ouvrait des perspectives étourdissantes de savoir cosmique, surhumain. Ma propre fascination pour l'inconnu allait avec enthousiasme à la rencontre de la sienne. Je me sentais contaminé par l'exaltation que donnait l'idée d'une suppression de toutes les barrières. Se débarrasser des limitations exaspérantes, éreintantes, imposées par le temps, l'espace, les lois naturelles, et se trouver connecté avec l'infini à nos portes, approcher les obscurs secrets abyssaux de l'immensité et de l'ultime. Il y avait certainement là de quoi risquer sa vie, son âme, tout son esprit. En outre, Aclay avait assuré qu'il n'existait plus aucun risque, et il m'avait invité à lui rendre visite, alors que, jusqu'à présent, il avait voulu me tenir à distance. Je frissonnais d'excitation à l'idée de ce que l'homme pouvait maintenant avoir à me dire. Je ressentais une hâte presque paralysante à me retrouver dans ce corps de ferme isolé, encore récemment assiégé, en présence de celui qui avait discuté avec de véritables émissaires de l'espace. Oui, j'avais désespérément envie de me retrouver là-bas, avec cet enregistrement effrayant et la pile de lettres dans lesquelles Aclay m'avait résumé ses premières conclusions. C'est ainsi que le dimanche, en fin de matinée, je télégraphiais à Aclay que je le retrouverais à Brattleboro le mercredi qui suivait, 12 septembre, si cette date lui convenait. Je suivais toutes ses indications. Excepté un point, celui de l'horaire de mon voyage. En toute franchise, je n'avais guère envie d'arriver en pleine nuit dans cette région hantée du Vermont. Aussi, au lieu de m'organiser comme il m'avait suggéré, je téléphonai à la gare et conçus un autre arrangement. En me levant tôt pour prendre à 8h07 temps légal le train de Boston, je pouvais attraper celui de 9h25 pour Greenfield, qui arrivait à 12h22. Ensuite, une correspondante parfaite m'amenait à Brattleboro à 13h08, un horaire bien plus agréable que 22h01 pour rencontrer Aclay et entreprendre avec lui un voyage en voiture au milieu des nombreuses collines pleines de secrets dissimulés. Je l'informai de ce choix dans mon télégramme et me réjouis d'apprendre dans sa réponse le soir même que mon futur hôte l'approuvait. Le texte était le suivant. Arrangement satisfaisant pour train 13h08 mercredi. Ne pas oublier enregistrement lettre photographie. Motus sur destination, grande révélation à prévoir. À clé.
Le fait que je reçoive ce message en réponse directe, celui que j'avais adressé à Clay, il avait forcément été délivré chez lui depuis le bureau de Townshend, soit par un agent officiel, soit par téléphone si la ligne avait été réparée, ôta tous les doutes inconscients qui pouvaient encore demeurer dans mon esprit concernant l'auteur véritable de cette lettre stupéfiante. J'en ressentis un grand soulagement, bien plus intense en vérité que je ne m'y attendais, car ces inquiétudes étaient restées profondément enfouies en moi. Quoi qu'il en soit, je dormis cette nuit-là d'un long et profond sommeil et me livrai à des préparatifs enthousiastes au cours des 2 jours suivants. 6. Le mercredi, je partis comme prévu, avec une valise remplie de quelques affaires indispensables et de nombreuses données scientifiques, comprenant entre autres le terrible document sonore, les photographies et le corpus complet de la correspondance d'Aclay. Ainsi qu'il me l'avait demandé, je n'avais dit à personne où je me rendais. Je comprenais bien que l'affaire exigeait la plus grande discrétion, même compte tenu du tour des plus favorables qu'avaient pris les événements. La seule pensée d'un contact mental effectif avec des extraterrestres, des êtres venus d'ailleurs, paraissait déjà assez stupéfiante à mon esprit ouvert plus ou moins préparé. Dans ces conditions, que pouvait-on imaginer de ses effets sur la vaste masse du public profane? J'ignore si ce fut l'effroi ou l'excitation de l'aventure qui domina mes pensées, tandis que je changeais de train à Boston et entamais le long trajet vers l'ouest hors des régions qui m'étaient familières, vers d'autres qui me l'étaient beaucoup moins. Waltham, Concord, Ayer, Fitchburg, Gardner, Atoll. Mon train avait 7 minutes de retard en arrivant à Greenfield, mais on avait retenu en conséquence l'express à destination du Nord. Je changeais de wagon en hâte et me sentis curieusement hors d'haleine tandis que le convoi, dans la lumière du début d'après-midi, s'ébranlait vers des territoires sur lesquels j'avais beaucoup lu de choses, mais que je n'avais encore jamais visitées. Je savais que je pénétrais dans une nouvelle Angleterre beaucoup plus arriérée, primitive que les zones côtières urbanisées et mécanisées où j'avais passé toute ma vie. Il s'agissait d'une région ancestrale, intacte, non marquée par les étrangers, la fumée des usines, les panneaux d'affichage et les routes goudronnées, contrairement aux endroits touchés par la modernité. J'y trouverais d'étranges survivances de cette nature endémique et encore foisonnante, profondément enracinée dans le paysage dont elle semble l'émanation authentique. Cette nature où subsistent d'étonnants souvenirs très anciens, et qui fertilise un terrain propice à des croyances obscures, mystérieuses, rarement évoquées. De temps à autre, je voyais les eaux bleues de la rivière Connecticut scintiller au soleil. Après Northfield, nous la traversâmes. Devant nous s'élevaient de vertes collines cryptiques, et quand le contrôleur passa, il m'apprit que j'étais enfin dans le Vermont. Il me conseilla de retarder ma montre 1 heure, puisque la campagne montagneuse du Nord ne veut rien savoir des nouveaux fuseaux horaires. En m'exécutant, j'eus l'impression de revenir 1 siècle en arrière. Le train longeait la rivière. Sur l'autre rive, dans le New Hampshire, je voyais approcher les pentes abruptes du Wantastiket, théâtre d'insolites vieilles légendes. Puis des rues apparurent sur ma gauche, et j'aperçus une île verdoyante sur ma droite au milieu des flots. Les passagers du train se levèrent et s'approchèrent de la porte. Je les suivis, le wagon s'arrêta, et je posai le pied sous le long appentis qui abritait les quais de la gare de Brattleboro. J'hésitai un moment devant la rangée d'automobiles en train d'attendre, cherchant laquelle pourrait se révéler être la Ford d'Aclay, mais on m'identifia avant que je fasse mon choix. Pourtant, ce ne fut certainement pas mon correspondant qui s'avança vers moi la main tendue, et me demanda avec la plus grande courtoisie si je n'étais pas M. Albert N. Wilmartz d'Arkham. Cet homme ne ressemblait en rien à l'Aclay barbu et grisonnant de la photographie. Il se révélait plus jeune et mieux rompu aux civilités, vêtu à la dernière mode, et portait une petite moustache noire. Sa voix cultivée me parut, d'une façon curieuse et presque inquiétante, vaguement familière, sans que je parvienne à me souvenir où j'avais pu l'entendre. Tout en scrutant l'individu,
J'écoutais ses explications. Ami de mon futur hôte, il était venu à sa place depuis Townshend. Hackley, m'annonça-t-il, avait souffert d'une sorte de crise d'asthme et ne se sentait pas suffisamment en forme pour entreprendre un trajet en plein air. Ce problème de santé bénin n'aurait aucune incidence sur le déroulement de ma visite. Je n'arrivais pas à évaluer dans quelle mesure ce monsieur Noyes, ainsi qu'il se présenta, avait connaissance des recherches et découvertes d'Hackley. Mais il me sembla, à son ton désinvolte, qu'il ne devait pas savoir grand-chose. En me rappelant quel ermite était Hackley, j'éprouvai une certaine surprise qu'il ait pu faire appel si aisément à un ami disponible. Mais je ne laissai pas mon étonnement m'empêcher de monter dans la voiture que l'homme m'indiqua d'un geste. Il ne s'agissait pas de la petite automobile désuète décrite par Hackley, mais d'un grand modèle récent à la carrosserie immaculée. Celle de Noyes, apparemment, qui portait les plaques minéralogiques du Massachusetts, affichant cette année-là l'emblème amusant de la morue sacrée. Mon guide, conclus-je, devait être un estivant de la région de Townshend. Il monta à côté de moi et démarra tout de suite. Je me réjouis qu'il ne se montre pas trop loquace, car une espèce de tension dans l'atmosphère ne m'incitait guère à parler. Dans la lumière de l'après-midi, la bourgade était charmante. Nous gravîmes une montée et tournâmes à droite dans la grande rue. Elle somnolait comme les vieilles villes de la Nouvelle-Angleterre de notre enfance, et quelque chose dans cette concentration de toits, de clochers, de cheminées et de murs en briques évoquait des formes qui faisaient vibrer en moi une émotion atavique. Je me rendis compte que je me trouvais à l'orée d'une région à moitié ensorcelée, sur laquelle le passage du temps n'avait pas prise. Une région où, de toute antiquité, le bizarre avait pu croître et perdurer parce que nul ne l'avait jamais dérangé. Tandis que nous quittions Brattleboro, mon sentiment de malaise, de contrainte s'accrut à cause de ce paysage vallonné dont les collines de granit et de verdure nous surplombaient de manière menaçante et oppressante, suggérant la présence cachée d'obscurs secrets et d'immémoriales survivances qui pourraient, ou non, se révéler hostiles à l'humanité. Pendant un moment, nous longeâmes une large et peu profonde rivière descendant de collines que je n'identifiais pas au nord, et je frémis quand mon compagnon m'apprit qu'il s'agissait de la rivière de l'Ouest. C'était dans ces eaux, me rappelai-je, d'après les articles, qu'on avait vu flotter après la crue l'un de ces êtres malsains semblables à des crabes. Peu à peu, la campagne autour de nous se fit plus sauvage et déserte. D'archaïques ponts couverts effrayants, comme venus du passé, subsistaient dans les creux des montagnes, et la voie de chemin de fer désaffectée le long de la rivière paraissait exhaler une brume tangible de désolation. De magnifiques vallées colorées s'étendaient entre les hautes collines dont le granit gris et austère caractéristique de la Nouvelle-Angleterre perçait sous la verdure coiffant les sommets. Des torrents cascadaient follement dans les gorges, transportant jusqu'à la rivière les inimaginables énigmes de mille pics vierges. Parfois, des voix à moitié dissimulées partaient de la nôtre et se frayaient un chemin à travers des masses serrées de forêts luxuriantes dont les arbres primordiaux abritaient peut-être des armées d'esprits élémentaires. En voyant cela, je me rappelais les fois où Hackley, durant ses trajets en voiture, avait été inquiété par des êtres invisibles sur cette même route, et je ne m'étonnais guère que ce fût possible. Nous atteignîmes en moins d'une heure le pittoresque village de Newfan. Dernière frontière du monde que l'homme peut avec certitude considérer comme sien pour l'avoir conquis et complètement colonisé. Ensuite, nous renoncions à toute allégeance au tangible, à l'immédiat et au temporel pour pénétrer dans un univers fantastique d'irréalité silencieuse. La route étroite se déroulait tel un ruban et s'élevait, retombait, s'incurvait capricieusement au milieu des verts sommets inhabités et des vallées guère moins désertes, comme douées de conscience et de volonté. En dehors du ronronnement du moteur et de la faible agitation provenant des quelques fermes isolées près desquelles nous passions de loin en loin, le seul bruit qui me parvenait était le clapetis gargouillant et sournois d'étranges rues surgies d'innombrables sources cachées au fond des bois ombreux. La proximité, l'intimité presque de ces bizarres collines en dôme avaient à présent de quoi couper le souffle. L'escarpement de leur pente, bien pire que ce qu'on m'avait laissé imaginer, les rendait comme inconciliables avec le monde prosaïque et objectif où nous évoluons. Les denses forêts inexplorées de ces pans de terrains inaccessibles paraissaient abriter des êtres irrémédiablement et incroyablement étrangers, et j'avais le sentiment que la silhouette des monts portait en elle-même une étrange signification, oubliée depuis des éons, tels de vastes hiéroglyphes laissés par une race fantasmatique de titans, dont seuls de rares rêves insondables chantent encore les exploits. Toutes les légendes du passé, toutes les notions stupéfiantes révélées dans les lettres et les preuves d'Aclay revinrent à ma mémoire, exacerbant l'atmosphère générale de tensions et de menaces croissantes. L'objet de ma visite, les effroyables déviations de la norme qu'il avait provoquée, me frappèrent soudain et me glacèrent au point de submerger, où peu s'en fallait, mon enthousiasme pour l'étrange. Mon guide dut percevoir mon malaise, car à mesure que la route devenait plus irrégulière, ce qui ralentissait notre progression et la rendait plus cahotante, ses commentaires anodins, jusqu'à présent occasionnels, se muèrent en un discours au flux régulier. Il vanta la beauté et l'insolite du paysage et fit montre d'une certaine connaissance des travaux d'Aclay concernant les légendes locales. Ces questions courtoises indiquaient clairement qu'il savait scientifique le but de ma visite et que je transportais des données d'une certaine importance. Mais son attitude ne laissait en rien penser qu'il avait conscience de la profondeur et de l'atrocité des conclusions auxquelles était arrivé mon futur hôte. Il se montrait si cordial, si normal et si urbain, que ses remarques auraient dû me calmer et me rassurer. Bizarrement, je ne m'en sentais que davantage perturbé, tandis que nous nous enfoncions en cahotant dans la sauvagerie sans nom des bois et des collines. Par moments, j'avais l'impression qu'il me sondait pour évaluer ce que je connaissais des monstrueux secrets de la région, et, par ailleurs, chacune de ses phrases renforçait cette impression vague, agaçante et déconcertante que j'avais déjà entendu sa voix. Cette familiarité supposée n'avait rien d'ordinaire ni de plaisant, malgré les accents sympathiques et cultivés de mon guide, parce que je l'associais sans savoir pourquoi à des cauchemars oubliés et pensais que l'identifier risquerait de me rendre fou. Si j'avais eu une bonne excuse, je crois que j'aurais tourné les talons et renoncé à ma visite. En l'occurrence, cela paraissait difficile. Je me dis qu'une conversation objective, scientifique avec Aclay lui-même, dès mon arrivée, m'aiderait beaucoup à reprendre mes esprits. En outre, je trouvais une sorte de beauté cosmique étrangement apaisante dans le paysage hypnotique à travers lequel nous grimpions et plongions comme dans un rêve. Le temps s'était égaré au milieu des labyrinthes derrière nous, et désormais ne s'étendaient que les vagues florissantes de la féerie et le charme retrouvé des siècles évanouis, tandis que nous passions devant d'anciens bosquets, des champs virginaux bordés de gaies floraisons automnales, et par moments, devant de petits corps de ferme bruns nichés sous d'immenses arbres, au pied de falaises verticales chargées de bruyères parfumées et d'herbes sauvages. Le soleil lui-même conférait au paysage un éclat surnaturel, comme si un air spécial, une sorte d'haleine enchantée enveloppait toute la région. Je n'avais rien vu de tel auparavant, à part dans les décors magiques qui forment parfois l'arrière-plan des tableaux primitifs italiens. Le Sodoma ou Vinci ont peint de telles extravagances, mais seulement visibles à distance, derrière les voûtes d'arcade de la Renaissance. Là, tandis que nous nous enfoncions physiquement au cœur du tableau, je crus retrouver dans cette nécromancie quelque chose dont j'avais une connaissance innée ou dont j'avais hérité et que j'avais depuis toujours cherché en vain. Soudain, après avoir effectué un virage serré au sommet d'une côte très pentue, la voiture s'arrêta. Sur ma gauche, à l'autre extrémité d'une pelouse bien entretenue qui allait jusqu'à la route et s'enorgueillissait d'une bordure de pierre passée à la chaux, se dressait une demeure blanche à étages et greniers, d'une dimension et d'une élégance insolites pour la région, complétée de plusieurs granges et annexes mitoyennes ou reliées par des galeries ouvertes au bâtiment principal. Il y avait un moulin à vent derrière sur la droite. Je reconnus tout de suite les lieux grâce à la photographie que j'avais reçue,
et remarquai sans surprise le nom de Henry Hackley sur la boîte aux lettres de fer galvanisé plantée au bord de la route. À une certaine distance de l'arrière de la maison, une étendue plane de sol marécageux et peu boisé s'étendait, derrière laquelle s'élevait un flanc de colline escarpée couvert d'une épaisse forêt et surmonté d'un pic verdoyant au bord déchiqueté. Je compris que j'avais devant moi le sommet du Mont Noir, que l'homme n'a jusqu'à présent jamais gravi. Noyes sortit de la voiture, prit ma valise et me demanda de l'attendre pendant qu'il allait informer Hackley de mon arrivée. De son côté, ajouta-t-il, il avait une affaire importante à régler ailleurs et ne pouvait s'attarder. Tandis qu'il remontait l'allée vers la maison d'un pas pressé, je descendis à mon tour de la voiture. Je voulais me dégourdir un peu les jambes avant d'entamer une conversation où je resterais immobile. Mon sentiment de tension et d'inquiétude avait de nouveau atteint son maximum à présent que je me trouvais à l'endroit précis où s'étaient déroulées les terribles épreuves décrites de manière si impressionnante par Hackley dans ses lettres. En toute franchise, j'appréhendais les discussions à venir qui allaient me mettre en rapport avec des univers si éloignés de mon expérience, comme interdits. Un contact étroit avec le bizarre absolu est souvent plus terrifiant qu'inspirant, et je ne ressentais aucun réconfort à l'idée que, sur cette même portion de route poussiéreuse, Hackley, à la suite de nuits sans lune hantées par la peur et la mort, avait trouvé des empreintes monstrueuses et cette fameuse poix verte pestilentielle. Je remarquai au passage qu'il n'y avait aucun chien dans les parages. Mon futur hôte les avait-il vendus dès que ceux du dehors avaient conclu la paix avec lui? Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à éprouver, concernant la solidité et la sincérité de cette paix, la même confiance dont il semblait faire preuve dans sa dernière lettre, si étrangement différente des autres. Après tout, cet homme candide ne s'était que peu frotté au monde. Et si, sous la surface de cette nouvelle alliance, couraient en profondeur de sinistres arrière-pensées. Tandis que ces réflexions m'occupaient l'esprit, je baissais les yeux sur la chaussée poudreuse où s'étaient imprimés tant de témoignages hideux des événements. Les jours précédents avaient été secs, et des empreintes de toutes sortes constellaient la voie cabossée, en dépit de la nature isolée de l'endroit. Animé par une vague curiosité, j'entrepris de distinguer la forme de certaines de ces marques hétérogènes pour tenter de dominer l'envolée des pensées macabres que m'évoquait ce lieu et les associations qui s'y rattachaient. Je trouvais quelque chose de menaçant et d'oppressant dans ce silence funéraire, à peine brisé par le ruissellement subtil de lointains cours d'eau, et dans les pics verts serrés, les pentes escarpées couvertes de bois sombres qui limitaient sévèrement l'horizon. Ce fut alors qu'une vision heurta mes sens. En vérité, elle avait de quoi rendre dérisoires les vagues songeries inquiétantes qui me préoccupaient. J'ai dit que j'observais les différentes traces laissées sur la route avec une sorte de curiosité nonchalante, mais cette dernière fut soudain balayée par un accès bouleversant et paralysant de vive terreur. En dépit de la confusion de ces empreintes qui se chevauchaient dans la poussière et n'avaient guère de chance dans ces conditions d'attirer l'œil, je venais de noter certains détails là où l'allée menant à la maison rejoignait la chaussée, et de reconnaître sans aucune équivoque, hélas, la signification effroyable de ces détails. Car malheureusement, ce n'était pas pour rien que j'avais passé des heures à scruter les photographies de ces marques de griffes laissées par ceux du dehors qu'Hackley m'avait envoyées. Je ne me rappelais que trop les caractéristiques de ces pinces détestables et leur ambiguïté directionnelle, caractéristique de créatures n'appartenant pas à notre planète. Aucun espoir ne me restait d'avoir commis une miséricordieuse erreur. Là, indiscutable sous mes yeux, datant tout au plus de quelques heures, je voyais au minimum trois empreintes qui, telles d'affreux blasphèmes, ressortaient au milieu de la pléthore surprenante de traces floues se rapprochant ou s'éloignant de la demeure d'Hackley. C'étaient les traces infernales des êtres fongiques de Yugot. Je me retins de justesse de pousser un cri. Après tout, n'aurais-je pas dû le prévoir si j'avais vraiment cru ce que me disait Hackley dans ses lettres? Il assurait avoir fait la paix avec ces créatures. Dans ce cas, pourquoi m'étonner que certaines d'entre elles soient allées chez lui? Mais la terreur balaya cette logique rassurante.
Qui pouvait s'attendre à considérer pour la première fois sans bouleversement les empreintes de griffes d'êtres vivants venus des confins de l'espace? Ce fut à cet instant que je vis mon chauffeur passer la porte et s'approcher de moi du même pas vif. Je songeais que je devais me ressaisir, car ce personnage cordial ne savait probablement rien des incursions les plus profondes et les plus stupéfiantes d'Aclay dans le domaine de l'impossible. Noyes se hâta de m'apprendre que mon hôte était ravi de me recevoir et qu'il m'attendait. Toutefois, sa subite crise d'asthme l'empêcherait pendant encore un jour ou deux de remplir ses devoirs comme il l'aurait souhaité. Ses accès, quand ils survenaient, se révélaient très pénibles, toujours accompagnés d'une fébrilité débilitante et d'un état de faiblesse générale. Il ne pouvait presque rien faire quand il en souffrait, devait parler dans un murmure et ne se déplaçait qu'avec peine et très maladroitement. Ses pieds et ses chevilles enflaient. Il devait les bander comme un vieillard rendu goûteux par abus de viande de bœuf. En ce moment, il n'allait vraiment pas bien. Je devrais pour l'essentiel me débrouiller seul, mais il n'en avait pas moins hâte de discuter avec moi. Je le trouverais dans le bureau situé à gauche de l'entrée, la pièce au volet clos. Il demeurait dans l'obscurité quand il était malade, car il avait les yeux très sensibles à la lumière. Noyes me dit adieu et repartit vers le nord dans sa voiture tandis que je me dirigeais lentement vers la maison. On avait laissé la porte entrouverte pour moi, mais avant d'entrer je jetai un regard inquisiteur aux alentours pour essayer de comprendre ce qui dans ces lieux me paraissait, d'une manière indéfinissable, si anormal. Les granges et les annexes me semblaient fort prosaïques, et je remarquai dans une vaste grange ouverte la vieille Ford cabossée d'Aclay. La cause de l'étrangeté ambiante me frappa alors. C'était le silence total des lieux. D'ordinaire, dans une ferme, on entend au moins une vague rumeur provenant des différents animaux qui y demeurent. Mais ici, il n'y avait aucun signe de vie. Et les poules? Et les chiens? On pouvait raisonnablement imaginer que les quelques vaches qu'Aclay m'avait dit posséder étaient mises au pâturage, et les chiens avaient peut-être été vendus. Toutefois, je trouvais hautement insolite l'absence complète de caquettement et de grognement. Je ne m'attardai pas davantage dans l'allée, mais je poussai avec fermeté l'huisse et le refermai derrière moi. Cela m'avait réclamé un effort psychologique non négligeable et, à présent, je me retrouvais derrière la porte close. J'éprouvais un instant l'envie fugitive de m'enfuir sur le champ. Non que la vue s'offrant à moi fût en rien sinistre. Bien au contraire, je trouvais cette entrée datant de la fin de l'époque coloniale très gracieuse, agréable et pleine de goût. L'homme qui l'avait meublée ne manquait certes pas de raffinement. La raison qui m'avait fait envisager la fuite était inexplicable et indéfinissable. Une odeur étrange, peut-être, que je crus discerner. Mais je savais bien que les vieilles fermes, même les mieux entretenues, sont sujettes à l'humidité et à la moisissure.